J'aimerais introduire cette prédication par la lecture d'un psaume, le psaume 84. Et le psaume, bien sûr, est important, mais j'aimerais aussi mettre en lumière l'auteur du psaume. Parce que, on va le voir cet après-midi, il a eu un passage dans sa vie qui a dû être très très dur. Psaume 84. Combien tes demeures sont chéries, éternel des armées. Mon âme soupire, elle défaille après les parvis de l'éternel. Mon cœur et ma chair acclament le Dieu vivant. Le passereau même trouve un gîte et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, éternel des armées, mon roi et mon Dieu, heureux ceux qui habitent ta maison, ils te loueront encore. Heureux les hommes dont la force est en toi, ils ont dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée du Baca, ils en font une oasis. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur vigueur ne cesse de croître. Ils se présenteront devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton Messie. Mieux vaut, en effet, un jour dans tes parvis que mille ailleurs. J'ai choisi de me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que de résider sous les tentes de la méchanceté. Cette phrase est très importante compte tenu de qui l'a prononcée. Mieux vaut en effet un jour dans tes parvis que mille ailleurs. J'ai choisi de me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que de résider sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse pas le bonheur à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Amen. L'auteur de ce psaume, c'est des frères pour lesquels leurs parents n'étaient pas un bon exemple. Notamment leur père a été un très très mauvais exemple. Il s'agit des fils de Corée. Et un jour, cet homme qui aimait le Seigneur, parce que sinon on n'en verrait pas des psaumes, il a été amené à devoir prendre position dans une affaire terrible. Et il aurait pu essayer de chercher des excuses en se disant « mais c'est pas de ma faute, moi j'ai eu un père qui m'a montré le mauvais exemple, etc. etc. » À un moment donné, en tant que fils, il a pris position. Il s'est dit « mais moi, je prends ma décision, je fais mon choix et je choisis de ne pas suivre la voie que mon père a ouverte. » Et j'aimerais qu'on puisse lire un deuxième texte dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 3. Et on a la parole de Dieu qui... On va tourner autour d'une histoire qu'on va lire. Mais avant, j'aimerais l'introduire par justement ce psaume qui nous montre à quel point, lui, il a voulu se séparer de la tente de la méchanceté, celle de ses parents, pour aller auprès de la maison de Dieu. Il ne s'est pas dit « mes parents ont fait ce choix, alors moi je fais le même choix ». Non, il s'est démarqué. Et aujourd'hui, eh bien, j'aimerais soulever ce même appel. Parce que peut-être que dans nos vies, on a tous connu des circonstances défavorables ou non. Le choix de suivre Dieu, c'est un choix personnel. Et à un moment donné, il faut réfléchir. Et le Seigneur nous appelle. J'aimerais vous dire cet après-midi que le Seigneur vous appelle. Si jamais tu es encore dans l'attente de la méchanceté, il t'appelle à en sortir. Et on lit au chapitre 3, verset 7, ces paroles. C'est pourquoi selon ce que dit le Saint-Esprit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver et virent mes œuvres pendant 40 ans, c'est pourquoi je fus indigné contre cette génération et je dis, leur cœur s'égare toujours et ils n'ont pas connu mes voies. J'ai donc juré dans ma colère, ils n'entreront certainement pas dans mon repos. Prenez donc garde, frères, que personne parmi vous n'ait un cœur méchant et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Ces quelques versets que nous venons de lire nous montrent à quel point il est important de prendre position, et il nous montre aussi tout ce que Dieu veut à notre égard. Ce que Dieu voulait à l'égard du peuple, c'était les mettre au repos, en sécurité. Il voulait leur faire du bien, mais ils n'ont pas voulu recevoir ce que Dieu avait préparé pour eux. Et ils ont préféré autre chose. Ils ont préféré, entre guillemets, leur liberté de faire ce qu'ils voulaient. Ils ont préféré se rebeller contre Dieu. Et pourtant, Dieu leur a tendu la main maintes et maintes fois. Il leur a donné de la manne tous les jours. Et pourtant, ils ne savaient pas mesurer à quel point Dieu tendait sans cesse les mains vers eux pour leur faire du bien. Ils ne comprenaient pas du tout ce que Dieu faisait pour eux. Ils ne comprenaient pas à quel point Dieu voulait leur faire du bien. Et ils se sont rebellés. Et ils se sont révoltés. Oui, ici dans ce texte, on trouve une comparaison avec une révolte. Ce n'est pas une comparaison, c'est un souvenir qui est rappelé aux gens d'Israël d'une révolte, une révolte particulière. Et même, on va le voir, pendant laquelle Dieu a tendu la main. Alors je vous invite à la lire dans le livre des Nombres, au chapitre 16, cette révolte. Cette révolte, celui qui a écrit le psaume que nous avons lu tout à l'heure, il l'a vécu. Il l'a vécu, cette révolte. Et celui qui est l'instigateur même de cette révolte, c'est son propre père. Imaginons ce que ça doit être pour un fils qui aime Dieu, qui voit ainsi ses parents se perdre à ce point. Ici, il est question d'une révolte, celle de Corée. Alors peut-être, oui, on va lire le chapitre quand même, parce qu'il y a plusieurs points que j'aimerais relever. Peut-être que vous ne comprendrez pas tout ce qui est dit, mais je vais relever les choses importantes, les choses qu'on a besoin de bien comprendre pour nous cet après-midi. Mais néanmoins, je vais quand même faire la lecture. Nombre chapitre 16. Corée, fils de Itziar, fils de Kehath, fils de Lévi, avec Datan et Abiram, fils d'Eliab et On, fils de Pélet, tous trois fils de Ruben, prirent l'initiative de se soulever contre Moïse, avec 250 hommes, des Israélites, des princes de la communauté, de ceux que l'on convoquait aux réunions et qui étaient des gens de renom, autrement dit, avec le nombre qu'ils étaient et surtout les personnes qui faisaient partie de ce groupe, ce qu'ils espéraient, c'était emmener avec eux. Les 250 n'étaient que le petit nombre qui était censé attirer d'autres. Et ils espéraient renverser le peuple. Ils espéraient renverser l'ordre établi. Et c'est en cela que c'est une révolte. Et ils s'assemblèrent contre Moïse et contre Aaron, ceux pour lesquels Dieu avait établi responsable du peuple, Moïse et Aaron. C'est ainsi qu'ils ne se rassemblent pas contre Moïse et Aaron, mais ils se rassemblent contre celui qui a établi l'ordre. Ils se sont rassemblés contre Dieu, finalement. Et ils dirent, « C'en est assez, car toute la communauté, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel ? Ils refusaient le fait que Dieu les avait élevés. Quand Moïse eut entendu cela, il tomba face contre terre. Évidemment, lui n'avait rien cherché, c'est Dieu qui l'avait placé là. Il parla à Corée et à toute sa troupe en disant « Demain matin, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint, et il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Faites ceci, prenez des brasiers, Corée et toute sa troupe. Demain, mettez-y du feu et placez-y du parfum devant l'Éternel. L'homme que l'Éternel choisira, c'est lui qui sera saint. C'en est assez, fils de Lévi. » Moïse dit à Corée, « Écoutez donc, fils de Lévi, est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait mis à part de la communauté d'Israël en vous faisant approcher de lui pour vous employer au service du tabernacle de l'Éternel et vous placer devant la communauté afin de l'assister ? Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les fils de Lévi, avec toi, et vous réclamez encore le sacerdoce. C'est à cause de cela que toi et toute ta troupe, vous vous liguez contre l'Éternel. En effet, qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui ? » Je vais m'arrêter là un peu pour donner quelques explications, parce qu'il y a ici en Aaron un symbole de la personne de Jésus-Christ. Aujourd'hui, on vit dans un monde où les gens, ils sont prêts à vouloir aller au paradis. Ils sont prêts à vouloir s'approcher de Dieu. Sachant qu'au paradis, on va tous le servir. C'est un peu l'image de ce qu'on trouve ici dans cette révolte. Des gens qui voudraient s'approcher de Dieu, mais qui refusent l'autorité suprême d'Aaron. Et il y a des gens, ils veulent s'approcher de Dieu, mais Jésus-Christ, ils n'en veulent pas. Et ça, c'est très grave. Parce que Jésus-Christ, c'est le fondement sur lequel on peut s'approcher de Dieu. Sans Jésus-Christ, on ne peut pas s'approcher de Dieu. Qu'a fait Jésus-Christ ? Ce que Aaron symbolise ici. Jésus-Christ, il est venu sur la terre. Il est venu comme un simple homme. Il est venu marcher parmi les hommes, sans commettre de péché. Jésus-Christ, c'est celui qui a toujours exercé l'amour envers ceux qui étaient autour de lui. C'est toujours celui qui a béni ceux qui étaient autour de lui. C'est celui qui a tout donné. Il a subi le mépris, les crachats, les injures, les différentes souffrances. Il a été fouetté. Un texte dans Isaïe nous dit « J'ai livré mon dos à ceux qui me fouettaient ». C'était pas des fouets, au bout des fouets, des lanières des fouets, il y avait des clous pour dire à quel point son dos a été lacéré. Et c'est un vain mot, il est question dans la parole même de sillon, comme dans les chants. Son dos a été sillonné. C'est celui qui a souffert. Après la flagellation, il a marché, il a porté sa croix, il est allé jusqu'à mourir sur une croix, donnant sa vie pour tous les hommes. À cause de notre péché. Et il n'y a pas d'autre moyen pour nous approcher de Dieu que de passer par Jésus-Christ. Il est celui qui est mort pour nous. Il est celui qui est mort pour toi, pour tes péchés. Et si tu n'acceptes pas Jésus-Christ, si tu n'acceptes pas ce qui est lié au sacrifice de Jésus-Christ, c'est vrai qu'on a chanté un chant qui nous parle de la mort à soi-même sur le fait qu'il faut se séparer de ce qui n'est pas bien, parce que celui qui vit l'expérience de la rencontre avec Dieu, il n'a plus envie de faire ce qui déplaît à Dieu. C'est tout simplement ça. Il n'en a plus l'envie. Il a complètement changé. Et si dans ton cœur, tu n'es pas passé par cette expérience, si dans ton cœur, tu as envie de ces mauvaises choses, alors j'aimerais t'avertir, parce que tu es dans les tentes de la méchanceté. Le péché est encore sur ta vie, et il y a une malédiction avec le péché. On va le voir dans la suite de cette histoire. Il y a une vraie malédiction pour celui qui choisit de demeurer loin de Dieu. Parce que celui qui s'oppose à Jésus-Christ, il s'oppose à Dieu. Ici, il s'oppose à Aaron, il est l'image de Jésus-Christ. Et ici, j'aimerais qu'on puisse comprendre l'importance qu'il faut accepter Jésus-Christ et tout ce qui va avec le sacrifice de Jésus. Comment serais-je pardonné ? En lui demandant pardon, en m'approchant de lui, en croyant de tout mon cœur qu'il est mort pour moi, qu'il est mort pour mes péchés, que son sang a coulé pour moi. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il a donné sa vie pour toi, pour que tu puisses être pardonné. Alors que lui était sans péché, tu peux être pardonné. Tu peux saisir la délivrance. Et ce salut, il est personnel. Ce salut, toi, tu peux le saisir, même si tes parents ne le saisissent pas. Toi, tu peux faire le choix de saisir ce salut par la foi, en croyant que le Seigneur Jésus est mort pour toi sur la croix et que tu as accès à Dieu en te repentant, en demandant pardon à Dieu pour tes péchés. Ici, on va voir une attitude, on va voir l'attitude de ceux qui se révoltent et qui demeurent dans leur révolte. Et on voit aussi l'attitude de Dieu à leur égard. Regardez à partir du verset 12. Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Éliab, donc deux autres complices. Mais ils dirent, nous ne monterons pas. Ils se rebiffent à l'autorité qui leur dit de venir. Ils ne veulent pas se présenter devant l'autorité. Ils ne veulent pas venir. Ils s'entêtent dans leur péché et ils refusent catégoriquement de plier le genou devant l'autorité, devant l'ordre que Dieu a établi. Est-ce trop peu que tu nous aies fait monter d'un pays découlant le lait, le miel, afin de nous faire mourir au désert? Vas-tu encore t'imposer à nous? Comme quoi, comment on peut être aveuglé? C'est Dieu qui avait fait tout ça. Ce n'était pas Moïse. Ce n'est pas dans un pays découlant de lait et de miel que tu nous as fait entrer. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en héritage. Imagines-tu que ces gens sont aveugles? Nous ne monterons pas pour la deuxième fois. Ils affirment, non, on ne montera pas, on ne va pas obéir. On l'a décidé. Résultat, verset 13, Moïse fut très irrité et dit à l'Éternel, n'aie pas égard à leur offrande. Je ne leur ai même pas pris un âne et je n'ai fait de mal à aucun d'eux. Moïse dit à Corée, toi et toute ta troupe, trouvez-vous demain devant l'Éternel avec Aaron. On en a deux qui sont alliés ensemble pour ne pas monter. Malgré tout, Moïse trouve une oreille attentive avec Corée. Ça peut paraître surprenant. Et il va pouvoir quand même leur dire, montez-vous. Trouvez-vous demain. Et là, à travers ce temps qui s'écoule. Ceux qui connaissent certains messages que j'ai déjà apportés vont voir où je veux en venir. Mais il n'est pas question de monter tout de suite. Monter demain. Là, il y a un chronomètre qui se déclenche. C'est ce qu'on appelle le temps de la grâce. C'est le temps où il est possible de se repentir. C'est le temps où il est possible de demander pardon pour sa mauvaise attitude. C'est le temps qui nous sépare d'un jugement. C'est le temps qui est là, qui va vraiment me permettre de m'examiner moi-même, de regarder si oui ou non je suis sur une mauvaise voie ou une bonne voie, de réfléchir à mon propre comportement. Dieu me tend la main et Dieu te tend la main encore cet après-midi. Parce que le jugement, il est pour demain. Seulement, il ne faut pas s'appuyer là-dessus, sur le fait que c'est demain. Parce que notre vie ne nous appartient pas. Et il nous faut nous positionner aujourd'hui, comme je l'ai lu tout à l'heure dans le livre aux Hébreux, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Si je retarde, si je mets à demain ce que je peux faire aujourd'hui, je m'endurcis. Et comme c'est Dathan et Abiram ici, ils s'endurcissent, ils choisissent de ne pas monter, ils choisissent de ne pas venir. Alors ils vont devoir attendre jusqu'au lendemain, un temps qu'ils pourraient utiliser à avoir de bonnes réflexions, un temps qu'ils pourraient utiliser pour réfléchir vraiment sur ce qu'est leur vie, parce que là on parle de vie, là. On va le voir, leur vie est en danger. Et il faut qu'ils réfléchissent, et ils ont le temps pour ça. Que va-t-il se passer? Alors on continue. Verset 17, prenez chacun votre brasier, Mettez-y du parfum et présentez devant l'Éternel chacun votre brasier. Il y aura 250 brasiers pour chacun de ceux qui étaient là, qui se révoltaient. Aaron et toi, vous prendrez aussi chacun votre brasier. Ils prirent chacun leur brasier, ils mirent du feu, ils placèrent du parfum et se tinrent à l'entrée de la tente de la rencontre avec Moïse et Aaron. Et Corée assembla contre eux toute la troupe à l'entrée de la tente de la rencontre. Alors la gloire de l'Éternel apparut à toute la communauté. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit « Séparez-vous du milieu de cette communauté et je les exterminerai en un instant. » Ils tombèrent face contre terre, Moïse et Aaron, et dirent « Ô Dieu, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme aurait péché et tu serais indigné contre toute la communauté ?» L'Éternel parla à Moïse et dit, on voit la grâce de Dieu, quand on a des frères et des sœurs qui intercèdent pour nous, qui prient pour nous, pour qu'on puisse se ressaisir, on peut faire fléchir, même au départ, ce que Dieu avait, il savait ce qu'il allait faire. Mais il attendait que quelqu'un intercède, il attendait que quelqu'un prie. Ce que je dis, c'est pour les chrétiens, pour qu'on puisse être encouragés sur le fait qu'il nous faut prier pour ceux qui sont autour de nous. Ici, Moïse et Aaron, ils ont prié, et grâce aussi à ce qu'ils ont demandé, tous ne vont pas périr. Il va y avoir la possibilité de se positionner encore. Parle à la communauté et dis, retirez-vous de toutes les parts, de toutes parts, loin de la demeure de Corée, de Datan et d'Amiram. Ces demeures représentent l'endroit, les tentes de la méchanceté. Elles représentent l'endroit où le jugement va tomber. Elles représentent l'endroit où il ne faut pas être. Il nous faut être ailleurs, mais pas là. Et c'est l'ordre que Dieu donne. Verset 25. Moïse se leva et se rendit vers Datan et Abiram, qui eux voulaient rester, et les anciens d'Israël s'y rendirent à sa suite. Il parla à la communauté et dit, « Éloignez-vous des tentes de ces hommes méchants, et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur d'être emportés à cause de tous leurs péchés. » Ils se retirèrent de tous côtés, loin de la demeure de Corée, de Datan et d'Abiram. Datan et Abiram sortirent et se tinrent à l'entrée de leur tente, avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Moïse dit, « À ceci, vous reconnaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour accomplir. » En d'autres termes, il dit qu'il a été établi, ce n'est pas lui qui a cherché à être au-dessus, mais c'est Dieu. Et Moïse dit, « Je n'agis pas de moi-même. » Verset 29, « Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si le sol ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous reconnaîtrez alors que ces gens ont outragé l'Éternel. » Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, le sol qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tous ceux qui leur appartenaient. La terre les recouvrit et ils disparurent du milieu de l'assemblée. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leurs cris, en disant surtout que la terre ne nous engloutisse pas. Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui présentaient le parfum. Ça fait froid dans le dos à lire ces choses, mais il y a quelque chose, il y a un vrai appel de Dieu derrière. Ici, on voit à nouveau la main tendue que Dieu donne, que Dieu tend à ceux qui étaient là. Il leur dit, éloignez-vous des tentes, parce que sinon vous allez périr. Et encore cet après-midi, il est encore temps pour toi de choisir dans ton cœur de t'éloigner des tentes de la méchanceté. Avec qui passes-tu du temps? Que fais-tu de tes journées? Peut-être que vous pourriez vous dire, moi je ne fais rien de mal, je poursuis mon cursus normal, je ne fais rien de mal, je ne vole pas, je ne mens pas. Il y a le péché qui est là. Et à partir du moment où on n'accepte pas l'idée que nous sommes perdus si nous ne demandons pas pardon au Seigneur. C'est comme si on restait à l'endroit où le jugement allait tomber. Il nous faut prendre position. Il te faut prendre position. Là, aujourd'hui, il te faut te lever et demander au Seigneur sa grâce. Peut-être que tu n'as jamais expérimenté la grâce de Dieu sur ta vie. Peut-être que tu ne connais pas Dieu. Dieu voudrait tellement que tu puisses le connaître. Parce qu'il veut t'éviter de périr. Il ne veut pas que tu périsses. Dans la Bible, il est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu, son désir, c'est pas que tu périsses. C'est pas que tu restes là où tu te trouves, sous le jugement. Mais ce qu'il attend, c'est que tu puisses t'éloigner. Et il te laissera le temps de le faire. Ici, ceux qui ont choisi de s'éloigner, ils ont pu le faire. Malgré que c'était le jour J, il fallait attendre jusqu'au lendemain, ils ont tous pu réfléchir et visiblement, ils ont tous péri. Sauf quelques-uns. Un reste a choisi de s'éloigner. Un reste a choisi de s'éloigner. On a de manière certaine les fils de Corée qui, eux, à un moment donné, devant la gravité de la situation, ils ont dû, avec larmes aussi, quitter leur tente, sachant que leurs parents allaient subir un jugement. Je laisse planer un doute sur le sort de Corée, parce qu'on voit qu'alors que les deux s'affirment ne pas vouloir monter, lui, il vient voir Moïse, et il fait quand même ce que Moïse lui demande. Et à la fin, on voit que Abiram et Dathan restent à sortir devant leur tente, et Corée, on n'en parle plus. Néanmoins, quel que soit le sort de Corée dans cette affaire, il est celui qui a déclenché une révolte incroyable. Il est celui qui a fait vraiment beaucoup de mal. À l'image d'un brigand sur la croix, à côté de Jésus, qui lui avait fait beaucoup de mal pendant toute sa vie. Et au dernier moment, il a choisi sur la croix de demander pardon à Dieu pour tout ce qu'il avait fait. Et il a été pardonné. Comme au travers du feu, certes. Mais il a été pardonné quand même. Si Corée, dans son cœur, s'est repenti, ce qu'on ne sait pas. Les gens de Corée ont péri, ceux qui sont restés dans les tentes, mais comme on en a la preuve dans le livre des psaumes, tous ne sont pas restés. Et Corée lui-même, on ne sait pas ce qu'il a fait. C'est les tentes qui étaient sous le jugement. C'était ce qui symbolisait l'endroit où il y avait le péché. À partir du moment où peut-être même si Corée s'est repenti dans son cœur et a décidé de changer, eh bien, il a pu être épargné jusqu'au dernier moment. Et encore une fois, je ne dis pas ces choses pour nous encourager à reporter à demain le choix. Je dis ces choses pour qu'on puisse mesurer, à travers des choses aussi graves que celles-ci, à quel point Dieu est un Dieu d'amour, à quel point Dieu est prêt à te pardonner du péché. Quel que soit ce que tu as fait, Dieu veut te pardonner de ton péché. À partir du moment où tu reconnais que Jésus-Christ est celui qui est mort pour toi sur la croix du calvaire, qu'il a donné sa vie, que son sang a coulé et que ce qu'il a accompli sur la croix est suffisant pour que tu puisses saisir par la foi le salut que Dieu veut te donner, alors approche-toi de lui. Avec crainte et tremblement, parce que tu es avec ton péché, certes, mais approche-toi tel que tu es, parce que tu peux le faire. Et il y a un texte dans la parole qui nous le dit. Approchez-vous donc avec une pleine assurance de celui qui a vécu pour vous toutes ces choses. Approche-toi du trône de la grâce, parce que Dieu veut te faire grâce aujourd'hui. Mais si tu reportes à demain, tu risques de t'endurcir. Tu risques de t'endurcir. Et cet après-midi, c'est un appel qui est fort sur mon cœur. Parce que qui sait si la situation se représentera? Qui sait si demain tu pourras réfléchir tout à nouveau à ton comportement? Tu es peut-être loin de Dieu à ce jour. Et à ce jour, on est comme à un carrefour. Et vous êtes là, prêt à recevoir peut-être la grâce de Dieu. Si seulement vous vouliez réfléchir sur vos voies. Qui que tu sois. Quel que soit ton âge, il n'est pas question d'âge là, il est question de prendre position. Est-ce que oui, je reconnais que toute ma vie je l'ai vécu sans Dieu pour mon plaisir personnel, pour essayer de recevoir, de prendre tout ce que je pouvais prendre dans cette vie. sans considérer Dieu? Ou est-ce qu'un moment, je rentre en moi-même et je réfléchis et je réalise à quel point Dieu m'aime, à quel point Dieu veut que je sois près de lui? J'aimerais qu'on puisse retourner dans ce psaume 84 et relire quelques paroles à la lumière de ce que je viens de vous dire. Je crois que ce psaume peut prendre un éclairage différent à la lecture. Ici, celui qui a écrit ces lignes, il a peut-être vu aussi son père périr, sa mère périr, dans une situation très grave, parce qu'il s'était révolté. Mais la grâce de Dieu, c'est que les enfants ne périssent pas pour les parents. Le salut, c'est personnel. De la même manière que la foi de mes parents ne va pas me sauver moi. Ça va dans tous les sens. Le salut est personnel. Et Dieu attend que chacun se positionne. Est-ce que oui ou non, je veux me séparer des tentes de la méchanceté? Relisons ce psaume et je vais faire un appel. Combien tes demeures sont chéries, éternel des armées. Mon âme soupire, elle défaille après les parvis de l'éternel. Mon cœur et ma chair acclament le Dieu vivant. Le passereau même trouve un gîte et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils te loueront encore. Verset 11. Mieux vaut en effet un jour dans tes parvis que mille ailleurs. J'ai choisi de me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que de résider sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse pas le bonheur à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Est-ce qu'on peut se recueillir quelques instants? Ce psaume nous rappelle bien à quel point ce que Dieu veut, c'est notre bonheur. Dieu, il veut ton bonheur. Mais si tu tournes le dos à Dieu, tu vas aller quelque part où le jugement va tomber. Si tu restes ainsi loin de Dieu, si tu lui tournes le dos, tu vas garder en toi-même ce qui va causer ta perte, le péché. Dieu ne veut pas que l'homme périsse, comme je l'ai cité tout à l'heure. Mais si le péché est en toi, tu périras avec ton péché. Si à l'inverse, tu t'approches de Dieu et tu lui demandes la grâce et d'être recouvert par le sang du Seigneur, ça, c'est comme un vêtement. Et Dieu ne voit plus ton péché parce que tu crois dans l'œuvre de Jésus-Christ à la croix du calvaire.